Avec Rosemarie, nous avons répondu avec plaisir à votre invitation. On a bien sûr beaucoup de souvenirs ici dans, qui sont reliés à cette église en lien avec le stage que nous avions fait siècle passé, en fait même après le milieu du siècle passé. Et puis on avait vécu, c'est vrai, en 2009 une retraite d'église, et puis j'avais passé auparavant ici avec une prédication. J'ai d'ailleurs repris les notes de cette prédication pour pas que je dise la même chose aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas trop l'habitude de reprendre des vieilles prédications. Je fais très rarement ça. Et puis, nous, évidemment, nous, on prend de l'âge, on change aussi. Vous savez, on a trois fils, enfin, entre-temps, trois belles filles, trois petits-enfants. On est heureux dans notre cheminement. On vit un temps assez riche dans le sens que là où nous sommes pasteurs, dans le Jura-Bernois, à Tavannes, on vient de décider en assemblée générale mercredi dernier d'acquérir un nouveau bâtiment, enfin un vieux bâtiment de l'armée suisse qu'on va reconvertir en chapelle. Enfin, il faut encore un vote communal pour donner le OK, ce sera en septembre. On se réjouit d'entrer dans ce projet, et puis merci de prier avec nous. Et puis, vous le savez probablement, j'ai rejoint récemment l'équipe des intercesseurs auprès des parlementaires fédéraux. Alors là aussi, je me recommande à vos prières, parce que mon service n'est pas plus important que le vôtre, simplement il y a une présence physique, et dans ce sens-là, j'ai besoin de grâce, de sagesse, pour donner, mettre le grain de sel, hein, qui parfois dans une conversation est utile au-delà des salutations. Et puis hier soir avant de m'endormir, puis encore c'est revenu tout à l'heure pendant le temps de louange, d'ailleurs merci aux quatre sœurs et aux quatre frères qui ont conduit la louange, j'ai beaucoup aimé ce temps. J'avais à cœur, puisqu'on a été en Suisse préoccupé de ce qui s'est passé dans le canton de Vaud avec le meurtre de Marie, j'ai à cœur de faire une prière encore. Seigneur, en ce moment, nous sommes en communion avec les chrétiens de ce canton, de ce pays, et notamment aussi avec la famille du pasteur Antoine Schuster et Evelyne, son épouse, pour que tu consoles, que tu fasses une œuvre de grâce, de guérison. Nous prions aussi pour le coupable, que là aussi, l'œuvre du Saint-Esprit, qui ne recule devant rien, touche les cœurs. Et puis nous prions pour tellement d'autres personnes qui souffrent, qui ne sont pas dans les journaux, qui ne sont pas connues. Tu sais toutes choses, Seigneur, et là où tu nous convoques par ton Esprit Saint pour être actrice et acteur en ton nom, nous voulons t'obéir, Jésus. Et aussi maintenant, pour cette méditation, nous demandons la grâce pour parler, mais aussi pour écouter ce que tu veux souligner. Souvent, tu fais cela par des petites choses toutes simples. Tu nous demandes de retenir une phrase, une pensée qui est utile pour cette semaine qui s'ouvre. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Pour ce matin, j'ai été invité à préparer une prédication qui a pour thème « Baptême d'eau, baptême de l'Esprit ». Sous l'angle de la théologie, il s'agit en fait d'un thème très basique. Il s'inscrit parmi les fondements de la foi chrétienne. Mais dans l'histoire de la théologie, c'est autre chose, la théologie et l'histoire de la théologie. Dans l'histoire de la théologie, ce même thème est compliqué. Quand il est mal compris, alors je mets tout de suite la réserve, je ne prétends pas l'avoir bien compris, mais nous bénéficions peut-être à l'aube du troisième millénaire quand même de tout le travail qu'ont fait les docteurs de l'Église, je dirais, à la fin du XXe siècle. Quand il est mal compris, ce thème, il a souvent divisé le corps de Jésus, blessé des générations de chrétiens. Et puis il a provoqué, causé des positions sceptiques, enthousiastes, craintives, réactives, pour finalement déclencher chez beaucoup simplement de l'indifférence. Ce matin, comment aller vers ce thème sans irriter, décevoir, créer de nouveaux malentendus et tout le reste? Ou plutôt, comment vous motivez tous à être à la fois plus dans les rôles auxquels Dieu vous appelle, tout en entrant dans une plus grande dépendance des bénédictions de la Pentecôte? Alors, seul, je n'y arriverai pas à faire ce travail. C'est bien le Saint-Esprit qui agit et travaille dans nos cœurs à tous. Et j'aimerais, pour rentrer dans cette méditation, lire un texte au début du livre des Actes. Je ne vais pas développer ce texte en tant que tel, mais il contient l'élément du baptême d'eau, quoi qu'il s'agisse du baptême de Jean, j'y reviendrai, qui est différent du baptême chrétien, celui vécu par Fernando ce matin, et puis du baptême, et il est question d'être baptisé dans l'Esprit. Je lis dans Actes 1er chapitre, à partir du 4e verset, et dans la traduction en français courant. Un jour que Jésus prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Je m'arrête là pour la lecture biblique. Je commence par dire quelques mots, j'ai intitulé cela « Pour vivre le baptême d'eau ». Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, est appelé à baptiser dans l'eau du Jourdain les personnes qui se repentent. En exerçant son activité entre guillemets de baptiseur, c'est pas vraiment français, mais comme ça je me fais comprendre, il précise que quelqu'un d'autre viendra après lui les baptiser dans le Saint-Esprit. Sa brève manière de présenter son travail et celui du Messie se trouve au début des quatre évangiles, au début de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Jean-Baptiste baptise les personnes qui confessent les péchés, c'est-à-dire leurs erreurs de priorité, leurs objectifs manqués, et le baptême d'eau qu'il donne n'est qu'un signe extérieur, c'est-à-dire une illustration. Le baptême, je le dis un peu fort ici, j'en suis conscient, le baptême d'eau que Jean donne est une image, une illustration tangible du mouvement intérieur dans le cœur qui doit être, ce mouvement-là doit être la réalité. Donc, il est important que l'on distingue le signe de sa réalité. Ça peut être comme je porte une bague, c'est le signe d'une réalité de mon amour et de mon engagement avec Rosemary. Alors je peux effectivement porter un signe sans qu'il y ait la réalité, et je peux peut-être vivre une réalité en omettant d'avoir le signe avec moi, ce qui peut être aussi prêté à confusion. Jean-Baptiste veut éviter la confusion entre la réalité et le signe. Et d'ailleurs, son retrait dans le désert est une manière encore physique d'illustrer cela, en disant: si tu vis une réalité dans ton cœur, alors bouge-toi déjà un bout pour que l'on puisse poser le signe sur ta vie. Et ce matin, il y avait ça aussi, C'était bien fort, hein, dans la voiture, en venant, on disait, il fait combien de degrés dans le lac Léman, hein. On a posé cette question avec Rosemary. Et puis on prie pour Seigneur, te guérisse et te rende pas malade, hein, suite à ce geste d'obéissance, que Seigneur te bénisse beaucoup. Jean veut éviter la confusion. Qu'est-ce que le péché, puisqu'on doit confesser des péchés pour être baptisé? Une question qu'on pourrait poser, mais c'est quoi le péché? Quelqu'un a dit, oh, je suis à l'église, le pasteur il a dit qu'il faut être contre le péché. Alors si on sort de la chapelle en disant ça, c'est pas faux, mais il faudrait comprendre un peu mieux. Hein. C'est quoi le péché? C'est la question universelle du mal, ce qui afflige et indigne les hommes. Ce n'est pas l'effet d'un principe éternel ou bien une pesanteur attachée à notre existence, ou encore un phénomène que le progrès de la connaissance ou de la science permettrait d'éliminer. À la différence de beaucoup d'autres conceptions, parce qu'il y a beaucoup de conceptions sur ce qu'est le mal. Pour certains, c'est de boire du lait et puis de déjà de cuire des œufs. Hein. Vous avez entendu la manifestation dire. Enfin, je comprends des saines motivations. Et en tant qu'agriculteur, je sais que toute l'opportunité qu'il y a à alimenter les gens avec des calories et des végétales plutôt que qu'animales. Et je sais bien qu'il y a là tout un défi dans lequel nous devrions nous laisser interroger sans devenir religieux dans ce domaine-là. C'est spontané, hein, je ne sais pas dans mes notes. À la différence des autres conceptions, la Bible définit le péché par trois caractéristiques. Le péché, le mal procède du cœur, Jésus l'enseigne dans Matthieu 15, où il y a le siège de la pensée et de la volonté. Le mal est toujours d'abord dirigé contre Dieu. Si vous lisez par exemple le psaume 51, après le péché de David, son adultère, il réalise en fait le problème, c'est d'abord contre Dieu. C'est aussi contre les humains, mais d'abord contre Dieu. Et puis, il y a encore la dimension de la faute morale, c'est-à-dire car le champ éthique relève du domaine religieux. Et les prophètes de l'Ancien Testament, Amos 5 par exemple, souligne cela de manière tellement forte. Et puis, la Bible contient différents termes qui définissent le péché. Alors, il y a peut-être celui qui est le plus connu, c'est le ratage. Hein, c'est le fait de ne pas atteindre la cible qui est fixée. Mais ça peut aussi être une faute par torsion, c'est-à-dire les choses bonnes qui se tordent. Ça vous est arrivé, certainement, de vivre un bon projet, d'avoir un rêve pour Dieu, et les choses se tordent. Se tordent peut-être à cause de vous, de votre responsabilité, peut-être aussi à cause de la responsabilité des autres. Ce sont ces éléments-là qui... Et puis, il y a aussi la question de la révolte qui rejette l'autorité. C'est une dimension que l'on retrouve très souvent illustrée dans la marche du peuple d'Israël. Le baptême de Jean illustre la possibilité de reconnaître son péché, d'en être lavé, pour rester un peu dans la logique théologique de l'Ancien Testament, on pourrait dire le baptême de Jean couvre le péché, comme les sacrifices couvrent le péché. C'est avec la venue de Jésus que le péché est vraiment ôté. C'est que Jésus seul, le Fils de Dieu, le Messie, qui peut ôter le péché. C'est lui qui devient, lui qui n'a pas de péché, il devient le porteur, le cantonnier. Vous savez ce que c'est les cantonniers, hein, qui s'occupent des routes, hein, dans nos pays. Il devient le manutentionnaire du péché. Ça, c'est le job de Jésus. Au sens universel, pour enlever le péché, Jésus accepte de le lever et de l'enlever. Je ne sais pas s'il y a ici dans la communauté un grutier, mais parce que dans le terme original grec, quand il est question d'ôter le péché, il y a deux mouvements qu'on n'a pas en français, c'est le fait de lever et déplacer. Et les personnes qui s'occupent des poids, par exemple, si vous avez des amis grutiers, des camions grues ou des grandes grues, il y a toute une connaissance et des examens à passer pour savoir à quelle distance, comment et quel poids on peut lever et comment le déplacer. Et c'est tout un art. Et il faut encore bien positionner les poids, les contrepoids, sinon il y a tout qui cupesse. Hein. Ça, vous savez. Et c'est grave. Jésus a suffisamment de contrepoids et d'autorité et d'assise, parce qu'il faut de l'assise, pour enlever le péché de quelqu'un et le déplacer. C'est l'œuvre, le travail que Jésus est venu faire avec beaucoup de grâce et de vérité, et continue de faire au milieu de nous. Le baptême de Jean, pour la période intertestamentaire, et plus intensément le baptême de Jésus, hein, depuis que l'ordre missionnaire est donné, parce que le baptême de Jean, c'était seulement pour laver son péché. Le baptême chrétien, alors je ne vais pas refaire un enseignement là-dessus, mais c'est quand même lié à mon thème que vous m'avez demandé. Il est question d'être associé à la mort et à la résurrection de Jésus. Et d'être pas simplement nettoyé, mais d'être associé à une vie nouvelle qui est dorénavant possible. Et d'où l'importance de vivre dans cette démarche de foi, d'obéissance. Et c'est bien aussi pour cela qu'autour simplement du baptême d'eau, hein, je parlais que dans l'histoire de la théologie, on avait pas mal de complications. Pensez à l'histoire, j'imagine que de temps en temps vous entendez parler, depuis que vous avez changé de pasteur, des anabaptistes ou des évangéliques, eh bien, la manière de placer le baptême après et non avant une décision, une expérience de foi nous paraît très importante. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu notre spécificité en tant qu'évangélique, de relier le baptême à une expérience première, qui est cette prise de conscience, on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure, de reconnaître qui nous sommes sans l'œuvre de Dieu. C'est ce que j'avais pensé dire concernant le baptême d'eau. J'aimerais te parler aussi du baptême dans l'esprit. Le Seigneur reprend les paroles de Jean-Baptiste pour décrire l'action du Saint-Esprit sur les personnes après Pentecôte. J'ouvre juste une parenthèse pour dire, Jean-Baptiste a été le seul pour parler ainsi, pour dire, vous recevez, vous allez être baptisé. Il n'y a pas le substantif, il y a le verbe. Vous allez être baptisé dans l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. On peut dire, c'est à partir de son, encore une fois, de son travail, de son activité de baptiste, précurseur de Jésus, qu'il a parlé ainsi de la venue. Mais Jésus n'est aucunement dérangé par le vocabulaire de Jean, puisqu'il va le reprendre, on l'a entendu, dans le récit d'Acte 1 au verset 5. Par l'affirmation que Jésus baptisera dans le Saint-Esprit, nous entendons que Dieu veut nous immerger. Pour vivre les projets de Dieu, nous devons être trempés dans sa vie. Les mouvements de son règne sont autres que ceux qui nous conditionnent habituellement. C'est très important d'être attentif à cela. Je cite pas souvent le pape François, mais j'ai été intéressé parce qu'il utilise le tweet. Il a écrit au sujet de la Pentecôte de cette année une phrase que je lis. « L'Esprit Saint nous donne un regard nouveau envers les autres, vu toujours comme frères et sœurs en Jésus, à respecter et à aimer. » Fin de la citation. Enfin, pour dire que ces choses simples qui, dans nos cœurs, font que les commissions, demain matin au bureau, à l'école, dans le restaurant où je vais prendre mon repas, j'ai un autre regard sur les personnes, procède bien de l'œuvre qu'aime susciter le Saint-Esprit. Nous avons besoin, je parle maintenant littéralement dans l'image utilisée par Jésus, nous avons besoin d'être plongés, hein, ça veut dire ça, baptisé veut être plongé, plongé dans le Saint-Esprit, c'est le vent. L'esprit, c'est pneuma en grec, les pneumatiques qu'on a autour de nos roues. Nous avons besoin d'être plongés dans le vent saint que Dieu donne. Alors, il y a effectivement une démarche initiale qui est importante et qui peut, j'y reviendrai dans un instant encore, qui peut générer des émotions, générer des changements brusques. Et puis, chez d'autres, ce changement, le fait d'être plongé, introduit dans un nouveau climat, va générer de manière très douce et très calme, parce qu'on n'est pas tous des apôtres Paul ou des apôtres Pierre. Hein. On est parfois comme ceux de la liste, on entend juste quand ils ont été introduits, puis on n'entend plus trop parler d'eux, mais on est quand même de l'équipe. Hein. On est quand même d'équipe. Et c'est tellement important d'être mis, introduit toujours à nouveau dans le climat de Dieu. Dans le climat de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament utilise d'autres images que le baptême. Jésus a parlé de cela à différentes reprises. Et il l'a fait, par exemple, en parlant de la nouvelle naissance indispensable, la nouvelle naissance indispensable qui vient de l'Esprit-Saint. Il a parlé de ça dans Jean 3, Nicodème. Ou bien, il donne le pouvoir qu'est le Saint-Esprit à ses disciples pour entrer comme ouvriers dans la moisson, dans Matthieu 10. Ou bien ailleurs, il souffle sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit » dans Jean 20. Sans oublier l'enseignement majeur de Jésus après le lavement des pieds sur le Saint-Esprit qui sera toujours avec eux, tel un avocat entre Jean 14 et 15 et 16. Ou pensez encore aux écrits de l'apôtre Paul qui énumère les dons, les vocations distribuées tellement généreusement par le Saint-Esprit, que ce soit dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens 4, ou bien le renouvellement que la régénération par l'assistance du Saint-Esprit donne par l'entendement nouveau que nous recevons. Pensez à Romains 12, verset 2, où nous sommes renouvelés dans l'intelligence par la grâce et l'œuvre de Dieu. Oui, c'est important en ce jour de Pentecôte, pas seulement le jour de Pentecôte, mais tous les dimanches, de savoir mais comment, Seigneur, tu veux m'introduire de manière nouvelle dans ce qui est préparé pour moi, pour ne pas limiter mon discernement, mon expérience à mon passé ou à mes vieilles habitudes. C'est tellement important. Seigneur, mets du collyre sur mes yeux pour que j'entre dans ce que tu veux donner. J'aimerais continuer encore quelques instants en disant qu'il y a des complications et de l'espérance dans le vécu du baptême de l'Esprit. Les bénédictions promises par Dieu sont souvent entourées de résistances à la fois dépendantes et indépendantes des humains. Je m'explique. Quand vous avez une bénédiction, il y a autour de la bénédiction une foule de difficultés qui veulent vous empêcher de trouver cet endroit de bénédiction. Et il est tellement important que l'on développe la simplicité, la persévérance pour traverser les quelques complications et toucher et recevoir ce qui est préparé par Dieu pour chacun d'entre nous. Ce matin, si logiquement on regarde le thermomètre, il ne faut pas aller au baptême. Et puis, on pourrait dire 1000 exemples. Hein. Demain, ce que le Seigneur te demande de faire, tu auras 1000 excuses pour ne pas le faire parce que tu n'as pas le temps, tu es trop occupé. Et du programme, on en trouve tous à faire autrement que selon les priorités du Seigneur. Ce principe des bénédictions qui sont parfois difficilement atteignables, cela se vérifie beaucoup dans l'histoire du peuple d'Israël. Puisque l'histoire du peuple d'Israël, je synthétise affreusement maintenant, mais c'est le petit échantillon du grand échantillon qu'est l'Église de Jésus-Christ. Alors, avec toute la prière et la paix pour Jérusalem que nous cultivons, le petit échantillon ne doit pas nous échapper pour dire mais ce qui se passe dans le grand échantillon, dans la famille de Dieu aujourd'hui, au sens large et universel, est en corrélation avec l'histoire d'Israël. Et vous pouvez vérifier tant de fois que même les formes de désobéissance, les formes de dérapage, en finalité, deviennent des leçons de pédagogie pour introduire les personnes dans leur nouvelle responsabilité pour atteindre vraiment les bénédictions qui sont préparées. Alors n'ayons pas l'illusion, parce que Jésus est venu et parce que nous sommes la nouvelle alliance, que nous sommes la famille de Jésus, que tout irait de manière automatique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Il y a tellement de grâce que Dieu aime donner parce qu'il aime nous associer avec nos responsabilités, nos charismes, les dons qui sont tellement variés et qu'il nous donne. Et c'est important en ce jour de ne pas oublier que nous avons là comme une prière importante à cultiver. Et puis dans les milieux chrétiens, on est parfois sous le couvert des manteaux pseudo-évangéliques très habiles à calculer, à nous débiner et à ne pas obéir, est-ce que j'ose dire comme ça, à la voix du Saint-Esprit ? Je vous donne deux exemples. En 1909, ils sont déjà morts les gens de ce temps-là, c'est facile de parler d'eux, mais en Allemagne, on a rédigé ce qu'on appelle la Déclaration de Berlin. C'était les milieux évangéliques piétistes classiques qui jugeaient les pentecôtistes, c'est le début du pentecôtisme, pour dire tout le mouvement et l'exubérance et les dons de l'esprit qu'ils prétendent avoir, notamment celui du parler en langue, c'est une émanation de l'enfer. Ça vient des forces du bas, si je traduis littéralement. Eh bien, ce sont les petits-petits-fils de ces gens-là, c'est passé en 2009, qui ont dit, les héritiers de ces églises qui ont écrit la Déclaration de Berlin, qui ont eu la simplicité de tendre la main aux pentecôtistes et leur dire « Nous vous demandons pardon ». Il a fallu un siècle pour qu'on change d'avis. Je vous donne un deuxième exemple. Aujourd'hui encore, on trouve dans le corps évangélique ce qu'on appelle des positions cessationnistes, c'est-à-dire où l'on pense que les dons, la dynamique, des charismes qui ont une dimension surnaturelle étaient limités au premier siècle tant que le Nouveau Testament n'était pas rédigé. Alors ça existe dans mon pays, dans le vôtre aussi. Alors je ne jette la pierre à personne, je parle de frères, je ne parle pas d'impies. Mais je veux quand même dire que ces positions-là, ou bien je vais chez les autres, les positions pentecôtistes qui veulent vérifier, est-ce que tu parles en langue, si tu n'as pas ce don-là, tu es un demi-chrétien, une demi-chrétienne. Vous comprenez ? Tant que nous sommes dans de telles catégories, nous ne sommes pas vraiment dans nos travaux, dans le service que Jésus nous demande. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Et nous sommes comme introduits par la responsabilité qui vient de Jésus, parce qu'il n'a pas cessé d'intervenir, même si au fil du temps les choses étaient compliquées, mais chaque siècle de l'histoire de l'Église porte les empreintes de l'œuvre du Saint-Esprit, d'hommes et de femmes qui, par des consécrations, le martyr, la solidarité, l'humilité, la non-violence, etc., etc., ont su se cantonner et ont su marcher à la suite du Christ. Et ce matin, nous sommes intéressés à être immergés en cela. Je conclue pour dire que vivre le baptême de l'Esprit, après, que ce soit avant ou après, si vous n'avez pas toujours pas vécu le baptême d'eau, alors il faudrait quand même mettre l'alliance hein, à votre doigt. Hein. Donc si vous fréquentez le Seigneur, mariez-vous avec lui, hein, pour rester dans l'image. Hein. Entrez dans l'obéissance, qui est en principe une obéissance du début de la vie chrétienne et pas du tard de la vie chrétienne. Quoique, il m'est arrivé de baptiser un brave frère qui est mort 3 semaines après à l'âge de plus de 80 ans. Mais il voulait, avant de mourir, avoir le baptême. Hein. Bon, il serait quand même allé au ciel, je pense, sans baptême. Mais c'est un peu tard pour mettre l'alliance, vous comprenez. Mais des fois, les gestes d'amitié avec le Seigneur sont beaux, même quand on est très âgé. Je reviens au texte de l'introduction du groupe Louange, parce que c'est par ça que j'avais aussi terminé ma méditation. Jésus nous invite à demander, chercher, frapper pour recevoir le Saint-Esprit. Je suis dans beaucoup de réunions de prière, j'entends peu de chrétiens demander le Saint-Esprit pour leur travail, leur examen, leur vécu dans le couple, l'éducation de leur enfant. J'entends peu. Ça n'a pas besoin de se passer devant moi, évidemment. Ça se passe entre vous et le Seigneur. Mais j'ai envie de vous dire, demandez, cherchez en sortant d'ici, frappez. Parce que Dieu aime vous équiper, et nous qui sommes méchants et donnons des bonnes choses à nos enfants, à bien plus forte raison, le Père qui est dans le ciel aime donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Avec tout le bénéfice du fruit de l'Esprit que cela va générer, des relations nouvelles, une patience, une fidélité, une douceur, enfin Galates 5, 22 et suivant, où toutes les relations sont enrichies. Dans Hébreux 6, verset 2, l'enseignement au sujet des baptêmes, au pluriel, l'enseignement au sujet des baptêmes, puis j'en ai parlé que de deux, parce qu'il y a encore le baptême de puissance, je n'ai pas parlé de ça, il y a encore le baptême de sang, je n'ai pas parlé de sang ce matin, qui est le martyr. Je n'ai pas parlé de ça parce que je n'ai pas le temps, mais j'aimerais vous dire que l'enseignement au sujet des baptêmes, d'après Hébreux 6, verset 2, c'est le lait des nourrissons. C'est le lait des nourrissons. Ce matin, je vous ai apporté la bouteille. En fait, pour aller plus loin dans notre mission, c'est que dans la mesure où nous avons la base, que nous devenons forts. Et parfois, on peut comme s'illusionner de vouloir faire des grandes choses pour Dieu, mais on n'a pas construit les éléments basiques. Et que ce jour de Pentecôte, nous qui sommes ici à Jérusalem, parce que Jésus a dit qu'il faut être témoin, Jérusalem, en Judée, en Samarie et au-delà du monde, ça veut dire chez toi, à Jérusalem, dans ta proximité facile, c'est la Judée, dans ta proximité compliquée, c'est la Samarie. Il y a aussi des Samaries à Lausanne. Et dans les extrémités, là où tu vas, il veut donner le Saint-Esprit. Il veut donner sa grâce pour t'enrichir à la gloire de ton nom, pas pour te gonfler, mais pour te rendre efficace et te rendre fructueux pour la gloire de son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait un peu plus que 22 minutes.